1 Thessaloniciens, et ce matin notre étude se porte sur le chapitre 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes à Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous, et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Alors j'ai retenu le titre de notre série ce matin pour le titre de mon message « Toujours debout ». Toujours debout, c'est un peu la pensée qui ressort clairement dans ce chapitre, je pense. Vous avez vu en verset 8 notamment, Paul dit « Maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes ». Et le mot pour « ferme », c'est justement « debout ». Être debout puisque vous êtes toujours debout. Et puis c'est la même pensée qui revient dans ces versets où il dit « Je veux vous affermir afin que personne ne soit ébranlé ». Ou bien encore dans le verset 13, que le Seigneur affermisse vos cœurs. Le mot affermir, c'est coller en place, fixer, rendre stable. Et c'est ce que Paul constate chez cette église, ce qu'il veut pour nous. Toujours debout, ça reste en place, ça ne bouge pas. Alors c'est sûr, pour un avion ou pour un vélo, puisque c'est la Tour de France qui commence, pour un avion ou pour un vélo, il faut que ça avance, il faut que ça bouge, sinon ça tombe. Mais pour un bâtiment, pour des murs, pour des fondements, il ne faut pas que ça bouge, sinon ça tombe. Et ici, on est plutôt dans cette deuxième illustration, cette deuxième pensée, il ne faut pas que ça bouge pour que ça ne tombe pas. Et c'est le souci, c'est le souhait profond de l'apôtre Paul pour cette église qui puisse demeurer ferme, ne pas bouger, rester debout, être toujours debout, malgré tout ce qui se passe autour d'eux. Alors bien sûr, certains passages du Nouveau Testament appellent l'église à être en mouvement. Allez, croissez, partez. Et on retienne ces vérités, mais dans un autre registre, il y a cette idée de ne pas bouger, c'est l'appel de rester en place, tenir ferme, comme un pilier, comme une colonne qui est toujours debout, qui ne bouge pas. J'ai pensé aussi aux gardes anglais au palais de Buckingham. Leur gloire, c'est de ne pas bouger. D'autres soldats, d'autres gardes, peut-être, sont appelés à courir, à bouger, et c'est leur force, mais ces gardes anglais que vous connaissez tous, leur force, c'est de ne pas du tout bouger, rester en place. Et c'est ce que l'Église aussi est appelée à faire dans un sens. C'est toujours impressionnant de voir les constructions de l'Antiquité qui restent debout, alors que les constructions bien plus modernes et récentes tiennent pas forcément longtemps. Et c'est, il me semble, une image de l'Église de Jésus-Christ, le monde autour de nous, On parle maintenant de précarité, de fragilité. On constate des temps incertains, comme nous venons de chanter. L'économie est fragile. Les mœurs, la moralité de notre société autour de nous est en train de chanceler, de bouger. Et ce qui est fort, c'est de penser que l'Église de Jésus-Christ, parfois malmenée, est toujours en place et reste debout. Et c'est ce que Paul veut pour nous. Et c'est un peu le but de cet épître, de féliciter, de se réjouir de cette Église qui tient debout et pour les encourager à continuer ainsi. Alors ce matin, pour nous aider, nous allons voir ce qui nous ébranle, les choses qui peuvent ébranler une Église, ensuite ce qui nous affermit, et enfin ce qui nous fera tenir debout après tout. Les choses qui nous ébranlent, les choses qui nous affermissent, et ce qui fera tenir debout après tout. Voyons d'abord ce qui peut nous ébranler, les dangers, les secousses, ce qui peut ébranler une église, ressort un peu dans ce chapitre. Et j'ai pensé, vous prenez un arbre par exemple qui se renverse ou qui tombe, peut-être a été soumis à différentes influences, mais il y a deux raisons pour un arbre peut tomber. C'est peut-être une influence qui vient de l'extérieur, comme une tempête, on en a eu encore dernièrement, quelque chose qui vient de l'extérieur, ou bien quelque chose qui vient de l'intérieur. Un arbre très fort, très solide, peut tomber après tout parce qu'il y a une maladie ou une petite bestiole qui ronge à l'intérieur. Et c'est les mêmes choses qui peuvent ébranler une église, des attaques qui viennent de l'extérieur ou bien des attaques qui viennent de l'intérieur. Voyons tout d'abord les attaques qui viennent de l'extérieur. Paul en parle ici dans les premiers versets, parle des afflictions, des persécutions que cette église, cette jeune église a subies. Bien sûr, c'est l'œuvre de Satan, pour les très conscients, qu'il y a l'œuvre de Satan qui déjà l'a empêché, on a vu ça en chapitre 2, l'a empêché à plusieurs reprises de se déplacer à Thessalonique. Et ici, il parle de l'œuvre du tentateur. Mais concernant ces attaques et tout ça, Paul a eu la grande sagesse de leur dire dès le début que c'était normal, c'était quelque chose qui allait venir, ça. C'est sûr, ça allait passer comme ça. Ces attaques, ces persécutions, ces afflictions. Il dit, c'est quand même fort, il dit, nous sommes destinés à cela. Alors, on dit, ben, c'est pas très rassurant quand même de le dire, mais voilà, il peut dire en verset 4, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, et comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Donc, on l'a dit, ça c'est fait, vous le savez, donc, c'est normal. Et justement, Jésus aussi, il a souvent dit la même chose à ses disciples pour les rassurer. Ces épreuves, ces attaques, ces afflictions. Et il faut qu'on soit de plus en plus convaincus, parce que c'est difficile pour nous de les vivre et de ne pas être ébranlés. Mais de savoir que c'est prévu, c'est normal, ça peut aider à ne pas être ébranlé. Les épreuves dans notre vie ne sont pas la preuve que Dieu n'est pas content avec notre foi. Les épreuves, c'est la preuve que Satan n'est pas content avec notre foi. Hein? Les épreuves, c'est pas la preuve que Dieu n'est pas content avec nous. Les épreuves, c'est plutôt la preuve que Satan n'est pas content avec nous. Et c'est justement ce chapitre et cet épître qui nous a fait réfléchir. On a inclus une nouvelle leçon dans les cours découvertes. Avant, il y avait 10 leçons, maintenant il y a 11 leçons. Et on a ajouté une leçon sur les épreuves. Et c'est une leçon qu'on voit dans les premières, tout de suite au début, une des premières leçons, parce qu'on voulait imiter l'exemple de l'apôtre Paul. On voulait être sûr qu'on puisse avoir une compréhension de ces choses qui arrivent dans notre vie. Et que c'est pas la preuve que Dieu ne nous aime pas, c'est plutôt la preuve qu'on marche avec lui. Et que le monde peut ne pas nous aimer, ou Satan peut ne pas être content, mais c'est pas une surprise. Pensez à un bateau qui quitte le port. Dès qu'il quitte le port, l'eau devient plus agitée, le vent devient plus fort, le mal de mer arrive, tout est moins confortable. Alors à ce moment, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'il faut dire, certainement le bateau a un problème pour que tout cela arrive? Ou bien le départ a été mal conçu ou le port a été mal conçu pour que ça nous arrive? Eh bien non, c'est ni un problème avec le bateau, ni un problème avec le port ou le départ. C'est le bateau est destiné à cela, le navire est destiné à traverser les océans et c'est toute son utilité, c'est toute sa force, c'est de pouvoir traverser cette mer parfois agitée, ces vents, pour transporter une cargaison des personnes à bon port. Et ce que Dieu souhaite pour nous, il nous lance dans ce voyage vers le ciel, et c'est normal que ces choses arrivent, ces attaques qui viennent de l'extérieur. Ça peut ébranler une église, mais Paul a aidé cette église par ses avertissements, ses encouragements, à ne pas être ébranlé quand ces choses arrivent. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et puis, il y a les attaques qui viennent de l'intérieur, parfois plus subtiles. Regardez le verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. Et vous voulez toujours nous voir. Alors, il faut comprendre pourquoi Paul est tellement soulagé de savoir que les Thessaloniciens ont toujours un bon souvenir de lui et aimeraient le revoir. Pourquoi ils ont toujours un bon souvenir de lui? Ça l'a tellement soulagé. Parce que il semble qu'il y avait des gens qui sont venus dans l'église, des faux docteurs ou autres. Il y avait des gens qui sont là et qui accusent Paul d'être un escroc, d'être pas sérieux, d'être pas net. Donc il y avait des bruits qui couraient dans l'église que Paul, il est pas net. Je pense qu'il y a une histoire de Lucky Luke comme ça. Il y a une troupe théâtrale ambulante qui parcourt les villages du Far West et ils viennent dans un village, ils montent le spectacle et pendant que toute la ville est au spectacle, ils cambriolent la banque et puis le lendemain, quand tout le monde constate la chose, ils sont déjà partis au loin. Et malheureusement, la version chrétienne de ça existe. On a vu ça dernièrement dans l'évangile de la prospérité. C'est ce que font des gens. Hein. L'un de vous m'a envoyé un documentaire qui suit bien. C'était vraiment un escroc. Les gens arrivaient, ils montaient la tente, ils prêchaient cet évangile de prospérité, et puis ils plumaient tout le monde et ils s'en allaient. Donc malheureusement, la version soi-disant chrétienne de cet escroc existe. Et c'est ce dont on accuse Paul, ici, en quelque sorte. Et les gens disaient, vous voyez, c'est pour ça qu'il est parti si vite. Il était là quelques semaines, et puis il s'est taillé. On ne l'a plus revu, c'est parce qu'il voulait vous plumer, il voulait vous escroquer. Et c'est pour ça que Paul, dans cette lettre, doit dédier une bonne partie, on a vu la semaine dernière, notamment, en chapitre 2, à se défendre, en quelque sorte, en disant, mais vous savez, il n'y avait pas de fraude chez nous, il n'y avait pas toutes ces choses, on a dû partir vite à cause des persécutions, mais on veut revenir, on reste très attaché à vous, à ce qui est votre sort, à vos luttes. Donc Paul leur rappelle ça pour défendre un peu sa personne contre ces attaques. Mais tout cela nous dévoile une des méthodes du tentateur, une des méthodes dans son arsenal de semer un peu le mensonge, les calomnies, les fausses accusations pour ébranler l'Église, les chrétiens, au sein de l'Église. Il y avait même, si vous lisez la deuxième épître aux Thessaloniciens, et il y avait ce même genre de problème, Paul va dire en 2 Thessaloniciens chapitre 2, il y avait même des gens qui se faisaient passer pour l'apôtre Paul pour enseigner des fausses doctrines. Donc, là encore, il les rappelle, les mêmes thèmes d'être affirmé, de ne pas être ébranlé, reviennent dans cette deuxième épître aux Thessaloniciens. Et il dit en chapitre 2, verset 2, attention, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, les gens, ils se faisaient passer pour à l'apôtre Paul, il y avait des faux épîtres qui circulaient, il y a des fausses idées, et Paul doit dire non, c'est vous me connaissez, vous savez dans votre bon sens ce que j'ai déjà enseigné, donc ne vous laissez pas ébranler entre vous par ces bruits qui courent. Et les Thessaloniciens, ils ont bien fait de ne pas être ébranlés par ces rumeurs, par ces calomnies, par ces critiques envers l'apôtre Paul. Et c'est une bonne leçon pour nous tous, je pense, dans les couloirs du travail, là où vous travaillez, ou même parfois dans les couloirs de l'Église, on entend des choses, on entend de tout parfois. N'hésitons pas à discerner le travail de l'ennemi. En général, on peut repérer l'œuvre du malin, du diable, parce que le diable, il ne veut pas pousser à plus d'amour, plus d'engagement, plus de service, plus d'humilité, plus de sacrifice pour les autres. En général, il veut nous démotiver, il veut nous déstabiliser, il veut nous miner. Donc, il serait ravi si on gardait un mauvais souvenir des chrétiens, un mauvais souvenir des églises, un mauvais souvenir des responsables, un mauvais souvenir de tout ça. Et c'est pour ça que Paul est tellement content. Ah, Timothée m'a dit que vous avez gardé un bon souvenir de moi. Je peux revenir, j'aimerais revenir. C'est bien que vous n'avez pas été ébranlé par les fausses doctrines, les fausses idées. Plus d'une église a su résister aux attaques de l'extérieur pour succomber aux choses qui rongent depuis l'intérieur, mais nous voulons être avisés à résister à la fois les afflictions qui viennent d'un monde incrédule, à la fois des tentations du diable qui veut miner de l'intérieur, parfois en cachette, parfois subtile, mais tout ça, ça peut ébranler une église et nous ne voulons pas que cela arrive. Et gloire à Dieu, chez les Thessaloniciens, il tenait bon. Paul était tellement inquiet, tellement impatient, il a dû partir vite, donc il renvoie Timothée, et pour lui c'était tellement une bonne nouvelle de savoir que cette église tenait encore, il restait debout. Alors voilà des choses qui parfois nous ébranlent. Voyons maintenant en deuxième point ce qui peut nous affirmer, ce que Paul fait pour affirmer cette église et comment Paul lui-même a été affirmé dans ces moments d'épreuve et d'angoisse. Alors, j'ai relevé plusieurs choses. On peut faire une petite liste des choses qui nous affirment. Il me semble des bonnes choses dans la vie de l'Église à rechercher. Tout d'abord, on le voit en versets 6 à 8. Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles. Donc ça, c'est une chose qui nous affirme, qui nous encourage. C'est les bonnes nouvelles de l'œuvre. Et pour Paul, c'est ça qui a affirmé Paul lui-même. Il décrit ce moment dans sa vie comme un moment de beaucoup d'instabilité, d'épreuves, d'angoisse. Il est impatient, il s'inquiète beaucoup de cette nouvelle église, cette jeune église implantée à Thessalonique. Il doit envoyer Timothée, donc lui il reste tout seul à Athènes. Donc tout ça, ça le chamboule un peu, il est peiné, il est angoissé. Mais versets 7 à 8, en conséquence, frères, dans nos angoisses et dans nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. C'est-à-dire, Paul dit, ça m'a fait tellement de bien, même dans mes angoisses et mes épreuves, de savoir que là-bas, chez vous, ça se passe bien. Je pense que c'est ça qui peut vraiment affirmer une église, affirmer nous les chrétiens, les bonnes nouvelles de l'œuvre ailleurs, les bonnes nouvelles dans la vie des chrétiens. D'où l'importance de ce ministère de visite qui prend vraiment forme dans notre Église et pour laquelle on est très reconnaissant, ces échanges, ces partages de nouvelles, les bonnes nouvelles. J'aime bien le proverbe 25-25 qui dit « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Et c'est quelque chose qui peut nous encourager. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais je trouve que c'est récurrent dans la vie d'église, la vie du chrétien. C'est que parfois ça ne va pas trop ici, mais il y a des bonnes nouvelles qui viennent de là-bas. Et parfois ça nous console, ça nous porte, lorsque notre situation est difficile, de savoir ce que Dieu fait ailleurs, de ce que Dieu reste fidèle pour son peuple, ça nous encourage. Il me semble que c'est une raison que la mission, cet engagement dans la mission, peut faire tellement du bien à une église, pour l'affirmer. Cela nous donne accès aux bonnes choses qui se passent ailleurs. Donc, parfois on se dit, la France, ça n'avance pas, tout ça, c'est difficile, on est ébranlé ici, mais de savoir que Dieu est actif et agissant ailleurs, d'entendre des nouvelles des missionnaires, de pouvoir y aller soi-même et voir, ça vraiment affirme une église. Donc, une chose qui nous affirme, c'est les bonnes nouvelles de l'œuvre. Et il suffit d'avoir un œil sur ce que Dieu fait, et c'est sûr, vous pouvez voir, vous pouvez trouver des bonnes nouvelles de son œuvre autour de vous. Et puis une autre chose, dans les versets suivants, versets 9 à 10 notamment, les choses qui affirment, c'est les prières, la prière. Verset 9, « Quelles actions de grâce en effet nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir. » Il avait dit dans le premier chapitre, dans ses salutations, que voilà, nous prions, nous rendons grâce continuellement pour vous. On sait ce que Paul faisait, on sait un peu, on a un aperçu de sa vie de prière pour les églises et pour les chrétiens. Et certainement, les prières de Paul n'étaient pas pour rien pour cette église et pour d'autres églises. Si cette église est encore debout, c'est que Paul et d'autres priaient pour elle. Et ce qui me touche, c'est que non seulement il prie pour eux, mais il dit qu'il prie pour eux. Et c'est ça qui affirme et qui encourage. Souvent, vous avez vécu ça certainement, de savoir que quelqu'un prie pour vous, c'est tellement encourageant. En dehors de l'exaucement que vous pouvez recevoir de Dieu, vous êtes déjà en quelque sorte porté, exaucé, consolé de savoir que d'autres prient pour vous. Donc ça c'est une bonne chose pour être affirmé, pour ne pas être ébranlé, pour rester toujours debout, priant pour notre église, priant pour nos responsables, priant pour les autres églises. Pour être affirmé. Et puis une autre chose qui peut affirmer, c'est, on le voit à la fin du verset 10, c'est l'enseignement, tout court, l'enseignement de la Bible, l'enseignement biblique, parce qu'il dit en verset 10, « Nuit et jour, nous prions à Dieu de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Alors, qu'est-ce qui manque à leur foi ? Il semble que ce qui manque à leur foi, c'est quelques vérités qu'ils n'ont pas encore saisies. On se rappelle que Paul était là pour très peu de temps. Il a pu faire les cours découvertes, il a pu annoncer l'évangile et puis il a dû partir. Donc, certaines vérités n'ont pas pu être peut-être bien ou suffisamment présentées. 3 semaines, c'est court, ou quelques mois, c'est court. Donc, il veut revenir pour compléter ce qui manque à leur foi, c'est-à-dire, je pense, plus d'enseignement biblique, peut-être plus d'exemples personnels de sa vie. Il veut les enseigner. J'aurais pas remarqué moi-même, je pense, mais dans les versets 6, un commentaire a soulevé un détail intéressant. Il dit que Timothée est revenu avec des bonnes nouvelles. Il nous a donné des bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour et de... Non. De votre foi et de votre amour. Ça nous étonne un peu de l'apôtre Paul, parce que chaque fois, il dit de votre foi, de votre amour et de votre espérance. Ces trois choses sont toujours ensemble, et notamment dans le premier chapitre, il avait dit, moi j'ai des souvenirs de votre foi, de votre amour, de votre espérance. Et si Timothée revient, ils disent, oui, c'est super, ils ont la foi, ils ont l'amour. Et il semble qu'il y a un petit problème sur l'espérance, et il va devoir aborder ça dans les chapitres suivants. Il va leur dire, il ne faut pas vivre comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance. Il y avait plusieurs questions concernant la mort. Qu'est-ce qui arrive à un chrétien qui meurt aujourd'hui? Ou des questions par rapport au retour du Seigneur. Est-ce qu'il est déjà revenu ou pas encore? Donc, quelques lacunes par rapport à l'espérance chrétienne qui va pouvoir compléter, il va pouvoir enseigner. Et ça aussi, il faut le savoir, ce sont les vérités de la Bible, ce sont les enseignements de la Bible qui vont nous aider à tenir debout, qui font en sorte qu'une église tienne debout, si elle est attachée à l'enseignement de la parole, si c'est ces enseignements-là qui peuvent vous rendre fort jour après jour. Et d'où Éphèse. Éphèse, c'est justement pour compléter ce qui manque à notre foi. Et même si on a fini Éphèse, il restera encore des choses à apprendre, à découvrir, à compléter. Mais nous avons voulu faire Éphèse pour prendre chacun plus loin dans la connaissance de la Bible. C'est une des raisons que nous partons aussi en Côte d'Ivoire, pour pouvoir compléter ce qui manque à leur foi et pour que eux, peut-être, ils peuvent compléter ce qui manque à la nôtre par leur vie, par leur expérience, par les partages. Et puis, on fera certainement des enseignements sur place. Ils sont assez demandeurs sur plusieurs sujets précis, visiblement. Et voilà, comme ces Thessaloniciens qui étaient contents que Paul vienne compléter des choses. Donc voilà quelque chose qui nous affirme, ce qui ressort dans ce texte, des bonnes nouvelles de l'œuvre. Gardez un œil ailleurs sur ce que Dieu fait. Si vous traversez une période où vous vous sentez ébranlé, sachez que Dieu est actif aussi ailleurs, ça peut vous consoler. Les prières, quelqu'un qui prie pour vous ou vous qui priez pour d'autres personnes, qu'est-ce que ça peut encourager, affirmer? L'enseignement de la Bible, ça aussi, ça nous affirme. Mais ce qui nous fera tenir debout après tout, ce que nous allons voir maintenant, il termine verset 13, une prière, une pensée. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. En fait, au fond, ce qui nous ébranle, ce qui nous trouble, ce qui nous déstabilise dans cette vie, c'est quand on sait qu'on va être inspecté, quand on sait qu'on va être jugé. Vous le savez, si vous avez une inspection au travail, si vous avez un examen à rendre, ben oui, on est un peu ébranlé, on perd ses moyens, on est un peu décomposé. On tremble un peu. Ce mois-ci, c'était le moment où on attendait les résultats des examens. On est agité. On est inquiet parfois, surtout quand on sait qu'on a des lacunes ou que le travail qu'on a fourni est plutôt reprochable que irréprochable. Et finalement, c'est notre grand problème dans la vie. C'est ça qui nous déstabilise. C'est ça, c'est l'œuvre du tentateur, c'est vouloir augmenter les choses qu'on pourrait nous reprocher, augmenter notre péché, ou bien augmenter notre sentiment de culpabilité, on va rater l'examen. Parce qu'un jour, c'est ce qu'annonce ce verset, il y a l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, un jour, tout le monde va se retrouver devant Dieu, devant le juge, devant cet examen final. Et de se retrouver devant Dieu, c'est ça qui ébranle vraiment. Parce qu'on sait qu'on n'a pas fait tous les devoirs. On sait que si Dieu nous juge, on va rater son examen. Quand Jésus revient, dit un autre passage, tout va être soumis à un test de résistance. Les cieux et la terre vont être ébranlés, secoués. Et qu'est-ce qui reste à ce moment-là? De ce monde, rien. Tout va s'ébranler. Et dans la Bible, quand les gens se trouvent devant Dieu, devant toute sa sainteté, c'est sûr, ils ne restent pas debout. Ils ne restent pas debout devant ce juge, devant ce Dieu, devant cette grandeur, devant cette sainteté. Ils sont ébranlés. Mais ici, Paul prie, offre cette promesse, cette pensée, de se pouvoir se tenir devant Dieu, irréprochable. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir être irréprochable devant Dieu, inébranlable devant Dieu? Eh bien c'est ça la bonne nouvelle de la Bible, c'est ça l'évangile de Christ dont il parle en verset 2. L'évangile de Christ, c'est dit que Christ est venu, lui, il a tout ce qu'on peut nous reprocher, tout ce qui nous rend instable dans la vie devant Dieu. Eh bien il a pris sur lui à la croix. Et c'est lui qui a tremblé, c'est lui qui a été renversé, c'est lui qui a été secoué, c'est lui qui a succombé. Et par sa mort, il a pris notre place, cette place de celui qui ne peut pas se tenir devant Dieu, qui est coupable, qui est condamné, qui est ébranlé par la sainteté de Dieu. Jésus l'a été à la croix pour nous. Et ceux qui acceptent ce message, ceux qui reconnaissent en lui leur sauveur, eh bien, ils deviennent, aux yeux de Dieu, irréprochables dans la sainteté. C'est C'est ça l'offre formidable de l'Évangile, de pouvoir se tenir devant Dieu, debout, inébranlable, dans la sainteté. Il y a même un verset, chapitre 14, verset 4, qui dit même les personnes faibles, même les chrétiens faibles, c'est leur destinée de se tenir debout devant le Seigneur. Paul dit à tous les chrétiens, sachez que votre frère en Christ, il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. C'est le Seigneur qui s'occupe de ce travail, d'affermir chacun de nous, pour être des colonnes, des piliers, dans sa maison, dans son temple, d'être debout devant lui, devant son regard, le regard de l'inspecteur, de l'examinateur, on pourra tenir debout par Jésus-Christ, uniquement par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul peut dire, voilà, vous êtes ébranlés peut-être, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous affermir, mais sachez que Dieu, il s'occupe de vous affermir et de faire en sorte que vous serez debout, inébranlable, irréprochable dans la sainteté devant notre Père. Et quand on a cette promesse, l'Église avance, reste stable, reste debout et peut être à l'œuvre. On ne passe pas notre vie à paniquer, à se déprimer, à se culpabiliser, à être sur la touche. Au contraire, on saisit cette promesse, on sait qu'on tiendra debout par la grâce de Dieu, et puis on sert, on aime, on prie, on se déplace, on s'attache à la Bible. En 1939, c'était la veille du Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement britannique voyait les événements arriver, il savait que le peuple avait traversé des moments difficiles. Alors le gouvernement a fait imprimer des affiches, plusieurs affiches, mais notamment en 2,5 millions d'exemplaires. Et c'était comme un message du roi. Vous avez peut-être vu maintenant, c'est la grande mode. Restez calme et continuez. Keep calm and carry on. Restez calme et continuez. Donc ils avaient chez eux, dans les bureaux, ils avaient 2 millions d'affiches qu'ils allaient, dès qu'il y avait une invasion ou un problème, ils allaient afficher ça partout pour essayer de gérer la population. Mais ils ne les ont jamais diffusées parce qu'ils ont estimé que l'heure n'a jamais été suffisamment grave pour passer à tel moyen de propagande. Mais récemment, à notre époque, on a retrouvé un exemplaire. Une petite librairie dans le nord de l'Angleterre a retrouvé un exemplaire et l'a affiché. Et puis, ça est devenu un phénomène de mode. Vous le voyez partout maintenant. Restez calme et continuez. Il semble que c'est un message que ce monde souhaite tellement entendre. Dans les agitations, dans les bouleversements, dans les précarités autour de nous, ça relève le moral en quelque sorte. Restez calme et continuez. Et la manière qu'ils l'ont affiché, ils ont mis juste une couronne en haut et puis le message. Et c'était comme un message du roi, restez calme et continuez. Eh bien, nous avons, encore mieux que cette affiche de propagande, nous avons un message du roi, restez en place, continuez, restez confiant et continuez votre travail. Pour nous, on connaît le résultat. Les Anglais ne savaient pas le résultat de la guerre. Nous, on le connaît, la victoire déjà acquise en Jésus-Christ. Alors nous pouvons tenir debout, rester confiants et continuer dans la vie chrétienne.